nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.
Denis lui répond, c'est un pauvre homme. Il n'y a que des gens malheureux qui agissent mal. Nous avons la joie de vivre, lui non. Nicolas est surpris et se dit que c'est un ange. Mais malgré tout, cela ne les a pas empêchés de jouer au ballon au parc de la Tête d'Or comme des fous. Restaurant tous les deux. Leur table est un peu en retrait au fond de la salle. Denis lui demande « Comment vas-tu ? » Nicolas lui répond « Ma vie, c'est le cinéma. » Denis lui dit « Tu risques de passer à côté de la vie, la vraie vie. Une histoire qui nous arrive vraiment est beaucoup plus forte que celle que l'on rêve, que l'on écrit ou fait jouer par un autre. » Nicolas lui demande « Comment sais-tu ça, toi ?» Denis lui répond « Je m'en suis rendu compte. Un jour, je passais dans une rue déserte. Un chien est arrivé à foncer sur moi pour me mordre. Alors je me suis mis à courir comme un fou. Mon corps battait, battait. Je n'arrivais pas à me défaire de la bête qui me courait après. J'étais essoufflé, en sueur, le corps qui battait et tout. J'ai réussi à entrer dans une allée et attendre que la bête passe. La bête a grogné pendant pendant quelques minutes devant la porte close. Enfin, elle est partie. Le lendemain, lorsque j'ai vu un film dans une et qu'une scène, le héros est poursuivi, en regardant, je me suis rendu compte que la vie, la vraie, donnait plus de sensations. D'excitation que la fiction. Le cinéma ne peut donner d'aussi fortes sensations que la réalité. Nicolas lui dit, pour moi c'est le contraire, la vie me paraît fade. Denis lui répond, parce que ta vie, tu ne vis pas vraiment, tu restes en delà de la vie. Ce que vient de lui dire son frère, Denis, le rend mélancolique. Il se sent vidé. Un matin, on a sonné à la porte de Nicolas. Il ouvre. C'est Frédéric. Bonjour. Bonjour. Tu es revenu? Et oui, entre. Frédéric entre. Et Nicolas le mène au salon. Viens. C'est toi. Il a fait asseoir sur un fauteuil. Tu veux boire un café? Oui, je veux bien. J'ai pas pris de petit déjeuner. Nicolas va chercher à la cuisine tout ce qu'il faut pour faire un petit déjeuner. Il revient. Du lait avec du café, hein, comme tu aimes. Deux sucres? Oui, deux cuillères à sucre. Tiens, tu as du croissant aussi. Merci. Et une fois qu'il est servi, il s'assoit à côté de lui. Pendant que Frédéric mange, il lui demande « Alors, t'es rentré depuis quand ?»« Maintenant, je viens tout juste de rentrer. » Nicolas est touché que Frédéric vienne le voir dès son arrivée. « Comment s'est passé le tournage ?»« Très bien, un peu facho, levé à 6h, fini à 20h ou 22h, mais le film, ouf, je crois qu'il sera pas trop bien. »« Et toi ?»« Moi, rien. » Rien, absolument rien. À part que je me suis occupé de mon petit frère, mais pour ce qui est du travail, rien du tout. Frédéric passe la journée avec Nicolas. Ils vont faire les courses dans les magasins, acheter des vêtements, etc. Après dîner, ils passent la nuit allongés à terre à écouter de la musique. C'est Frédéric qui s'est blotti contre Nicolas. Nicolas est troublé par Frédéric malgré lui et le caresse. Il lui dit, tu es beau,
J'aime beaucoup ton visage. Tu ressembles à un enfant, un peu coquin, qui peut faire toutes les bêtises sans qu'on lui en veuille. Frédéric sourit et lui dit, je peux faire n'importe quoi, te faire n'importe quoi, même te voler, tu me diras rien. Nicolas lui dit, si, je te ferai des reproches, mais je t'en voudrais pas. Nicolas a envie de l'embrasser, mais n'ose pas. Il se dit, les femmes peuvent s'embrasser entre elles, mais personne n'a à y redire. Mais deux garçons ou deux hommes, c'est autre chose. Les gens voient tout de suite le mal. Passe la nuit à lancer. Et au matin, après le petit déjeuner, Frédéric le quitte.
Il faut bien que je rentre chez moi. Nicolas lui demande, pourquoi? Comme ça se fait après un voyage, on entre chez soi.
Nicolas lui dit, tu reviendras?
Oui, bien sûr.
Nicolas le prend dans ses bras et lui dit,
je me sens vidé, froid. Des fois, la mort m'attire.
Frédéric lui dit, tu vas te laisser aspirer?
Je ne veux pas que tu te laisses aspirer.
Cela lui dit, tu me suivras?
Frédéric lui répond, non. Non. Il ne faut pas y entrer.
Nicolas lui dit, même pour moi?
Oui, même pour toi.
De toute façon, la mort s'affronte toujours tout seul.
Ce n'est pas comme la vie.
Nicolas lui dit, pour la vie,
tu ne dirais pas non?
Frédéric lui dit,
la preuve, je suis là, je suis toujours là, et tu le sais bien.
Et ils se quittent.
Nicolas, Benoît a beaucoup de travail. L'entreprise marche bien. Plus de 1000 ouvriers. Un secteur maroquinerie, sac à main, cuir, luxe. Un secteur bagage, sac de voyage, vanity, valise. Un secteur gainerie, valise carton, vanity, carcasse d'électrophone et de télévision portable. Le secteur gainerie a une menuiserie. Carcasse de télévision et poste de radio portable. Et secteur gainerie, camion aussi, gainerie d'intérieur de camion pour verrier. L'entreprise marche avec trois représentants qui font le monde entier, même l'URSS et les Amériques. Benoît, lui aussi, fait le représentant et souvent part pour représenter sa grande maison. Ce qui fait qu'il est toujours en voyage, surtout à Paris, pour aller voir la direction Monoprix, où il leur fabrique tous leurs bagages. Benoît prend l'avion pour aller plus vite car le train est trop long. Il prend sa chambre toujours au même hôtel, Place de l'Étoile, une chambre avec balcon qui donne sur l'Arc de Triomphe. La chambre est meublée du 15, elle a un coin salon. Il prend ses repas au restaurant de l'hôtel. Au début, il téléphone à sa femme pour lui dire qu'il était bien arrivé. Maintenant, il ne le fait plus. Ses voyages sont devenus routiniers. Il est sorti de sa chambre de son hôtel. Une jeune femme d'un 25 ans, grande, mince, cheveux blonds qui ondulent, porte un tailleur rouge. Elle a des difficultés à ouvrir la porte de sa chambre.
Vous n'arrivez pas à ouvrir la porte de votre chambre, mademoiselle ?
Oui, monsieur.
Laissez-moi faire.
Elle lui donne les clés. Et il a ouvert la porte.
Merci, monsieur. Ce qu'il faut, c'est bien tenir la clé droite. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Elle entre dans sa chambre. Et lui entre dans sa sienne.
Tout en se déshabillant pour changer, mettre du linge propre. Malgré lui, je pense à la femme qu'il vient de voir et la trouve très belle. Sort de sa chambre pour aller au bar de l'hôtel. Le bar se trouve au rez-de-chaussée. Thank you.
C'est une pièce avec de la lumière intime, tellement intime que l'on y voit à peine. Il va se mettre au bar et là, il retrouve la jeune femme de tout à l'heure.
Elle est assise sur un tabouret. Elle le reconnaît et lui dit « Bonsoir. »«
Bonsoir. » »«
Pour vous remercier, je vous offre un verre. Vous voulez bien ?»«
Oui, merci. » »«
Je m'appelle Christine Belfort. »«
Moi, c'est Benoît Scruff. »
Elle dit au barman « Deux coupes de champagne. Cela vous va ?»«
C'est parfait. Merci, mais il ne fallait pas. »
Vous m'avez rendu service. Vous êtes d'où ?
De Lyon.
Moi, je passe mon temps entre Paris et la campagne. J'ai pas sommeil. Nous sortons un peu ?
Oui, je veux bien.
Et il quitte le bar.
Benoît se laisse guider. Il est comme dans un rêve.
Il marche dans Paris. Elle lui pose des questions sur ce qu'il est. Elle lui dit qu'elle vit seule. Il se dit qu'elle doit s'ennuyer. Il la trouve de plus en plus belle. Il lui parle de ses enfants. Elle rit lorsqu'il en parle. Il lui parle de ses difficultés avec eux. Mais son rire est un rire charmant. Elle, elle adore les animaux, surtout les chats. La solitude ne lui fait pas peur. Elle n'a rien à faire que de dépenser. Dépenser son argent, car elle a reçu un héritage de sa très riche famille. Lui se fait distrait lorsqu'elle parle de cela. Il aimerait lui dire qu'il la trouve très belle. Il aimerait l'embrasser, caresser les cheveux, mais n'ose pas. Ils entrent dans un cabaret. Où chante une personne.
Profitons de la corde.
Près du champagne.
Qui fait vibrer nos corps. Dansons.
Toscano, je suis un peu fatigué, vous permettez?
Si c'est pour moi, ça peut attendre.
Non, allons.
Une heure plus tard, il la raccompagne jusqu'à sa chambre. Avant qu'elle entre dans sa chambre, elle voit qu'il a envie. Et comme elle a envie, parce que cela fait longtemps qu'elle n'a pas fait, elle lui dit « Venez !» Je sais que vous en avez autant envie que moi. Et elle l'amène à sa chambre.
Ils entrent. Elle ferme la porte, n'éclaire pas la lumière, mais la pièce est éclairée par la lumière de la ville. Elle lui dit, c'est peut-être moins drôle que dans un taxi, mais c'est plus confortable. Elle se passe son cou. Montrez-moi ce que vous savez faire.
Il l'embrasse sur les lèvres. Le lendemain matin, après s'être habillée et s'apprêtant à rejoindre sa chambre, elle est en chemise de nuit, courte et transparente, noire. Ils sont près de la porte. Il lui dit, je veux te revoir. Elle hésite un peu, baisse la tête. Et la remonte. Oui, je veux bien.
Où ?
Ici, dans cet hôtel, la semaine prochaine. Il prend la tête entre les mains et lui dit, si tu savais comme je t'aime, l'embrasse sur les lèvres.
Et la quitte.
Ils se voient souvent, deviennent de plus en plus amoureux, et tellement amoureux qu'il va la voir à Amsterdam. Elle a été forcée de lui donner son adresse. Malheureusement, lorsqu'il sonne chez elle, une petite maison genre hôtel particulier, c'est elle qui lui a ouvert. Il entend du bruit, des bruits de pas. Elle lui dit, je ne peux pas te recevoir. J'ai des amis pour la semaine. Reviens dans 3 heures. Surtout ne te montre pas. Il est surpris. Et durant son séjour, il est obligé de se cacher, de l'attendre dans sa chambre d'hôtel. Elle vient le voir en vitesse et font l'amour rapidement. C'est très frustrant. Elle lui dit, je ne peux pas faire autrement. Et puis, je t'avais bien dit qu'il serait préférable que tu ne viennes pas. Il rentre chez lui, triste, déprimé, frustré, il ne pense qu'à elle. Sa femme lui demande, « Je te trouve pas bien, tu es malade ?»«
Non, pas du tout, un peu surchargé de travail. »
puis, à Paris, retrouve la fille plusieurs fois. Un jour, en se quittant, nous le reverrons quand ? Elle soupire et lui dit : Je ne sais pas, on pourrait peut-être se voir un peu moins souvent. Il devient pâle. Tu ne veux plus me revoir ? Elle lui dit : Tu n'es pas un peu rassasié de me voir ?
Non, je t'aime.
Tu ne m'aimes plus ? Elle soupire et lui dit :
Autant te le dire, j'ai rencontré un homme charmant, très excitant, 30 ans.
Tu n'es qu'une garce. Tu vas d'un homme à un autre. Tu prends ton pied et hop, salope.
Elle lui crie. Eh bien oui, et alors?
Je suis libre. J'aime faire l'amour et avoir des sensations nouvelles.
Il l'a giflé.
Oh, grossier personnage.
Tu veux des sensations nouvelles? Eh bien tu vas en avoir.
Il la prend par la main, lui tient la robe, elle se défend,
il lui donne un coup de poing sur le visage,
en continuant à la maintenir.
Elle tombe à la renverse,
en déchirant sa robe. Et ne bouge plus, les yeux fixes, la bouche ouverte, sa robe déchirée sur le devant, essoufflée. Il la regarde.
Te relève et quitte la chambre. Malheureusement, il tombe sur le garçon d'ascenseur. Un jeune homme dans les 25 ans, grand, mince, cheveux châtains. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Et il entre dans sa chambre. Fais sa valise. Et quitte l'hôtel.
Il dit au concierge, j'ai obligé de partir plus tôt. Une affaire urgente. Ma note, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Détective, que le corps a été retrouvé, que la police pense que l'assassin est un jeune inconnu avec qui elle sortait beaucoup. Mais pas d'indice, rien. Benoît se tient tranquille. Un après-midi, on lui téléphone.
Allô ?
Allô ? Je suis bien chez Monsieur Benoît Scraff ?
Oui.
Je vous téléphone, c'est pour vous dire que j'ai retrouvé dans la chambre de la victime de l'hôtel de l'Étoile un bracelet vous appartenant. Il y a votre nom dessus.
Mais qui êtes-vous ?
Je ne suis pas de la police. Nous reverrons sûrement, monsieur Benoît.
Que voulez-vous ?
Me taire, monsieur. Au revoir, monsieur. Benoît tremble. Il sait qu'il est entre les mains d'un maître chanteur. Il est à son bureau et se dit
« Je tombe amoureux pour la première fois, après mon mariage, et voilà ce qui m'arrive. Je sais ce qui ça va mal se terminer. Il va me ruiner ou me mener à la guillotine. »
Les jours passent, pas de nouvelles. Il tremble à chaque fois que le téléphone sonne ou qu'il ouvre une lettre. Un soir, il est au salon avec sa femme et sa fille. L'on frappe à la porte.
Entrez.
C'est le domestique.
Monsieur, il y a un monsieur qui désire vous parler.
Qui est-il ?
Il ne m'a pas donné son nom. C'est un jeune homme. Benoît dit à sa femme.
Tu vois, c'est quelqu'un de l'usine. Il a dû se passer quelque chose. Je vais aller voir.
Il se lève et sort de la pièce.
Il trouve dans le hall d'entrée un jeune homme, costume beige, grand, mince, cheveux châtains. Il porte à la main une valise en cuir marron.
« Monsieur, vous désirez ?»«
Vous ne voyez pas qui je suis ?»«
Non. »«
La personne qui a retrouvé votre bracelet, Benoît Parly. »« Je suis venu à Lyon vous voir. »«
Qu'est-ce que vous voulez ?»«
Je viens passer quelques jours ici, dans cette bonne vieille ville. »«
Oui. »
J'aurais besoin de me loger.
Vous voulez loger ici ?
Ma foi, si je n'ai pas les moyens de faire autrement.
C'est pas possible. Je ne vis pas seul.
Alors payez-moi l'hôtel.
Bien, il vous faut combien ?
5 000.
Vous restez si longtemps que cela ?
On ne sait pas. Le chèque, s'il vous plaît.
Oui, bien sûr. Venez, allons dans mon bureau.
Et il le mène à son bureau.
Entrez, je ne mente. Benoît ferme la porte. Va à son bureau.
Ouvre un tiroir pour prendre un chéquier.
À quel nom je le fais ?
Laissez en blanc, je le mettrai moi-même. Benoît fait le chèque. Et le lui tend. Merci. Il met le chèque dans sa poche. C'est vraiment beau chez vous. Bon, il faut que je vous laisse. Il faut que je cherche une chambre. Autrement, si je n'en trouve pas, je serai obligé de venir vous demander l'hospitalité. Benoît lui dit.
Allez, dépêchez-vous.
Le jeune homme lui dit. Oui, à bientôt.
Et il sort de la pièce.
Benoît est livide. Il retourne vers sa femme.
Retrouve sa femme et sa fille.
Sa femme lui demande, en le regardant bien.
Tu as reçu une mauvaise nouvelle ?
Non, pourquoi ?
Tu es tout blanc.
et il s'assoit.
Les jours passent, mais pas de nouvelles. Un soir, à la sortie de l'entreprise, il voit son trottoir en face le jeune homme. Le jeune homme va à lui. Benoît lui demande :
qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas soir ici. On peut nous surprendre.
Le jeune lui dit : pour que je sois distrait, il faut m'y aider.
Que voulez-vous ?
De l'argent. Mon séjour se prolonge un peu plus que prévu.
Combien ?
Le double de la dernière fois.
Vous êtes fou ?
Non, je veux être discret.
Marchons. Je vous fais le chèque de suite.
Benoît marche d'un bon pas. Employé ou ouvrier de l'entreprise qui le croise le salue. Benoît dit au jeune homme :
voyez, nous vous ont remarqué.
Mais qu'à leur dire que vous êtes mon tonton Vanto ?
C'est ça, et ma femme.
Le gigolo ?
J'ai pas envie de rire.
Ils arrivent à une rue où il y a un café populaire. Benoît y est rentré, le jeune l'a suivi. Ils vont à une table. Le quartier, un gros homme à tablier bleu, va vers eux et leur demande :
et ce sera pour ces messieurs ?
Le jeune dit : 2 cassis, c'est moi qui paye, vous permettez ?
Oui, ça revient cher les verres.
Le cafetier va leur chercher leur commande. Benoît sort son chéquier de sa poche.
À quel nom ?
Je mettrai. Il fait le chèque. Et le temps au jeune homme.
À ce rythme, vous allez vite me ruiner.
Oh, tonton ! Le cafetier revient, leur servir et s'éloigne. Benoît demande :
vous allez rester longtemps à Lyon ?
Le temps de me faire une petite rente.
Je vois. Et le bracelet, où il est ?
En lieu sûr. Le jeune se lève. Allez, au revoir, tonton.
Parce que vous comptez me revoir ?
Oui, bien sûr, j'aime bien mon tonton.
Et
histoire du café. Deux jours plus tard, le jeune l'attend devant son usine.
Benoît lui demande : il sera combien cette fois ?
2 fois le double, tonton.
Il revient plusieurs fois de suite. ne cherche même pas à être discret. Il prend Benoît par le bras. Il appelle tout fort, tonton. Une fois, il est chez lui. Il dit tout fort, bonsoir tonton.
La porte du salon s'est ouverte.
La porte du salon qui s'est ouverte, c'est sa femme qui demande.
Qui est-ce ?
Rien, un commissionnaire. Il tremble de plus en plus. Le jeune double à chaque fois la somme. Il devient de plus en plus arrogant. Il se dit, il faut que cela s'arrête. Je ne peux plus vivre comme ça. La prochaine fois que je le vois, c'est moi qui vais lui donner rendez-vous. Oui, c'est moi. Deux jours plus tard, il le voit à la sortie de son usine. Bonjour tonton.
Bonjour.
Ah, tu vois, tu t'es habitué à ce que je t'appelle tonton. T'es un vrai tonton Ganto.
Bon, assez parlé. Je te préviens. Et je tiens à te donner moi-même rendez-vous pour la prochaine fois.
J'aime pas ça.
Il n'y a rien à craindre, puisque je ne sais pas où tu as mis le bracelet.
C'est vrai.
Dans la semaine prochaine. À 21h, à mon entreprise. Tu sonnes à une petite porte, là-bas, qui donne dans le bureau. Je serai seul. Il viendra et il dira ta somme définitive. Qu'on n'en parle plus. Tu es trop voyant. Ça fait tapette. Bouge notre rencontre.
Viens, j'y serai. Et pour cette fois,
ça ne peut pas attendre la semaine prochaine.
Bon, je te fais confiance. À la semaine prochaine. Le samedi soir, Benoît est à son bureau de son usine et regarde les comptes de la semaine.
L'on a sonné. Il sort de son bureau pour aller ouvrir. Salut tonton, toujours à l'heure comme tu vois.
Entre,
il entre. Benoît ferme la porte.
Alors, c'est ça là où tu travailles?
C'est bien.
C'est le bureau de l'entreprise?
Oui, c'est le bureau.
Pas mal.
Viens, allons dans mon bureau.
Il le conduit à son bureau.
Assieds-toi.
Le jeune s'assoit.
Et Benoît, son bureau.
C'est ton bureau?
Oui.
Pas mal. J'ai bien réfléchi pour la somme.
Attends, tu veux boire quelque chose?
Tu veux faire la fête?
En quelque sorte, oui.
Tu crois que c'est vraiment la dernière fois que je viens? C'est ma dernière visite?
Oui, alors on boit?
Oui, je veux bien, mais attention.
La bouteille n'a pas été ouverte.
Benoît ouvre un placard et sort une bouteille et des verres.
Du champagne?
Oui. Et il fait le service.
Il donne un verre au jeune. Après qu'ils aient bu, le jeune lui dit « Bon, ce n'est pas tout ça, j'ai réfléchi à la somme. Qui sera peut-être la dernière. »
« Mais ce sera la dernière. Finissez votre verre. »
« Et vous ?»«
Moi aussi. »
Il boit, le jeune dit. « Il n'est pas mauvais comme champagne. » Le père lui dit.
« Des glaçons ?»«
Non, merci. »
« Comme c'est la dernière fois que vous venez, je vais vous faire visiter mon usine. »«
Oui, je veux bien. Il fait un peu chaud. »
Ils se lèvent tous les deux. Et sortent du bureau.
Venez, suivez-moi.
Il le mène dans un dédale de couloirs. Il a ouvert une porte qui mène à une cour. En réalité, cette cour est pour le moment un chantier où il y a des briques, des manches de fer, des sacs de ciment, etc.
Ici, on continue à construire un double mur pour isoler du bruit. Entre les deux murs, il y aura un espace.
Le jeune lui dit, « Oui, c'est bien, mais il faut penser à notre affaire. »
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, film intérieur dont c'était la 11e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVR.